Une évangélique de l'art, des beaux-arts en général. Et aujourd'hui, nous voulons surtout converser ensemble, avec la participation de Jacques, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et en nous concentrant davantage sur le sujet de la place de l'œuvre d'art dans le culte et la vie chrétienne en général, mais d'abord le culte. Alors j'ai dans une revue évangélique anglaise trouvé un article intitulé « L'art dans le culte chrétien » d'un théologien évangélique anglican qui me paraît une assez bonne introduction à notre sujet aujourd'hui, et je me suis dit que je pourrais essayer de vous en donner une traduction rapide, parfois un peu résumée, qui donc remplacera un exposé de ma part. Alors je ne sais pas si Jacques aura lui des choses à dire plus systématiques ensuite, mais il me semble que c'est intéressant que je vous donne ce texte de Roger Beckwith dans le Theological Sickness Fellowship Bulletin de déjà quelques années, de 1963. Enfin, sur quel sujet l'actualité ne se perd pas si vite. Alors, après quelques mots d'introduction, il parle de la nécessité de l'art. Il prend le mot art dans le sens le plus large et il dit que le culte chrétien ne peut pas se dispenser de l'art dans ce sens large. L'homme n'est pas un esprit désincarné, il faut que son culte, son adoration, ait une forme extérieure. Les mots sont déjà le minimum de la forme extérieure qui lui sont nécessaires, mais des gestes significatifs, des symboles significatifs sont aussi naturels, et aussi l'accompagnement des mots par une musique appropriée. Même dans l'adoration privée, cela est naturel, mais en public, pour le culte qui doit être un culte collectif, communautaire, c'est absolument indispensable. Le culte collectif n'est possible que si les adorateurs communiquent le sens de leur adoration non seulement à Dieu, mais aussi les uns aux autres. Il n'y a pas que le sermon qui est adressé aux hommes. Même les louanges et les prières doivent d'abord être adressées aux hommes pour que tous puissent participer à l'envoi de cette prière à Dieu. Et cela implique l'utilisation de mots et l'utilisation d'autres formes. La forme dans le culte, d'ailleurs, ne nous est pas seulement imposée par la nature, elle nous est aussi recommandée par la révélation. La Bible ne considère pas le corps comme une chose mauvaise, mais fondamentalement bonne, créée par Dieu. Et cela implique que la nature humaine a une forme externe, qu'elle s'exprime par des actes externes, avec l'usage de choses. Cela est l'intention divine. Bien sûr, les actes extérieurs ne sont pas toujours, même dans le culte, des expressions sincères du cœur. Isaïe 29, Marc 12. Mais cela, ce n'est pas la faute des actes extérieurs, c'est la faute du cœur hypocrite. Et par conséquent, nous trouvons des formes comme les mots, la musique, les gestes, prescrits pour le culte dans la Bible. Luc 11, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2, etc. Et la Bible met surtout l'accent sur l'importance de l'utilisation des mots pour rendre la communication intelligible aux autres adorateurs, en particulier le message de 1 Corinthiens 14. La création de formes, sauf la forme purement géométrique, s'appelle l'art. Et ainsi, si personne ne peut échapper à une forme dans le culte, personne ne peut échapper à l'art. Les branches de l'art qui se trouvent derrière les formes de l'adoration communautaire sont les suivantes, et la liste n'est pas forcément exhaustive: l'art littéraire, composition de la Bible, traduction de la Bible, certaines prières, l'art poétique, composition des psaumes, cantiques, hymnes, l'art de l'élocution, s'appliquer dans la lecture, ah oui, c'est un art aussi, l'art de la liturgie, l'ordonnance du service, même si les prières sont libres, l'art de la rhétorique, impliqué dans la prédication, qu'on trouve souvent chez des prédicateurs qui n'ont pas reçu de formation spéciale, parce que l'art n'est pas produit par la connaissance des règles autant que par un instinct pour le beau. L'art du cérémonial, impliquée dans les positions, les postures, les gestes employés. L'art de la musique. Tous ces arts, sauf la musique, sont indispensables. Il y a aussi l'art du vêtement ecclésiastique, même si ça n'indique pas plus qu'un complet sombre. Et il y a aussi, sauf si la congrégation se réunit dans un champ, tous les arts impliqués dans la construction d'un édifice pour le culte. L'architecture, la maçonnerie, la charpente, le travail du métal, du verre, etc. Et si on doit chanter et employer des symboles significatifs dans le culte, il faudra ajouter à ces arts nécessaires d'autres arts encore. La musique a été déjà mentionnée, mais la peinture et la sculpture seront aussi utilisées. On peut se demander si une communauté remplie de l'esprit ne peut pas se permettre d'ignorer ces considérations. Il est vrai, bien sûr, que les arts ne peuvent pas remplacer le travail du Saint-Esprit dans le culte et ne sont d'aucune valeur s'il n'est pas à l'œuvre. Cependant, il ne suit pas de cette vérité que les arts n'aient aucune valeur quand l'Esprit est à l'œuvre. Au contraire, si ces arts nous apportent les formes nécessaires et appropriées du culte, nous ne nous montrons pas très spirituels si nous les négligeons. Au contraire, nous risquons plutôt d'éteindre l'Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit pourrait se dispenser de toutes ces formes, mais il ne semble pas qu'il le veuille. Si nous le trouvons parfois à l'œuvre, là où les formes du culte ne sont guère cultivées, nous ne devons pas présumer que cela c'est selon son plan et qu'il ne pourrait pas être puissamment à l'œuvre, même plus puissamment, si on donnait plus d'attention aux formes du culte. Il y a deux autres erreurs sur le sujet contre lesquelles nous devons nous garder. La première, c'est que l'art nécessaire dans le culte impliquerait beaucoup d'élaboration. Un art du type qu'on appelle « gordé » en anglais, et je crois qu'on pourrait dire un art du type de 1900, du type des grilles de métro, du type luxuriant, avec beaucoup de complications. On m'a dit, mais je ne suis pas absolument sûr que ce soit un renseignement exact, que le mot viendrait de l'architecte Gaudi, qui a en particulier laissé beaucoup d'œuvres à Barcelone, je les ai vus à Barcelone, et qui sont de ce type-là. On dit que l'adjectif Gaudi en anglais, qui désigne ce type d'art, viendrait du nom de cet architecte et artiste. Alors, la première erreur, c'est d'imaginer que l'art, c'est toujours quelque chose de très luxuriant, de très compliqué. Mais, en fait, l'art qui est simple et austère est toujours de l'art, et peut-être de l'art excellent, alors que l'art élaboré, sans valeur plus grande du point de vue artistique, peut obscurcir le sens du culte et distraire de l'attention qu'on doit porter à Dieu. La seconde erreur que font fréquemment ceux qui méprisent l'art, c'est de penser qu'en méprisant l'art, ils peuvent échapper au problème de l'expression artistique. Car mépriser ce qu'on ne peut pas finalement s'empêcher de pratiquer a pour résultat non pas l'absence de l'art, mais la présence d'un art médiocre. De sorte que personne ne peut s'empêcher de s'exprimer dans des formes diverses. S'il prétend mépriser ces formes, en fait, c'est de l'art exécrable qu'il produit, alors qu'en portant attention à ces formes, on peut espérer produire un art meilleur. Les critères de l'art, ça commence peut-être à nous intéresser encore davantage. Les critères de l'art. Le premier critère de l'art dans le culte, c'est la convenance, le fait d'être approprié. La chose principale, c'est l'adoration. Et un art qui est bon du point de vue esthétique, mais qui n'est pas approprié, qui ne conduit pas à l'adoration, au contraire, l'empêchera. Tous les bons bâtiments ne feront pas de belles églises. Toute bonne musique n'est pas nécessairement une bonne musique d'église. De belles statues peuvent promouvoir l'idolâtrie plutôt que l'adoration de Dieu. Le second critère, c'est l'intelligibilité. L'art est donc création de forme. Le but de la création de forme, c'est la communication. Et si les formes de l'artiste ne signifient rien aux autres gens, il n'y a rien qui soit communiqué. Pour cette raison, bien que l'artiste puisse prendre de grandes libertés avec l'ordre, la rationalité, il ne peut pas les abandonner totalement sans cesser d'être un artiste. Paul souligne ce point dans 1 Corinthiens 14, que tout soit fait pour l'édification, que tout soit fait décemment et avec ordre. Le troisième critère, c'est la beauté. L'art n'est pas simplement une activité rationnelle et ordonnée qui communique une information à l'intelligence. Il doit faire appel aux émotions. L'art est la création de formes, mais c'est là qu'il diffère de la géométrie, c'est la création d'une forme belle. Belle dans le sens le plus large, ce qui inclut la sublimité et la vigueur. L'homme a un sens esthétique que Dieu lui a donné, par lequel il perçoit la beauté dans la nature et cherche à la reproduire dans l'art. La beauté dans la nature est une révélation de Dieu. Matthieu 6, Romains 1. Et il a été dit, non sans raison, que quand l'artiste pêche contre la beauté, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, il pêche contre Dieu. Mais spécialement dans l'Église et dans le culte, il est odieux de commettre des offenses contre la beauté. Parce que là, dans le culte, tout est délibérément offert à Dieu. Et, ou en tout cas, tout est fait publiquement en son nom. C'est un affront à Dieu qui est proche du sacrilège si nous mêlons à son culte ce que nous-mêmes, avec notre sens du beau, nous ne pouvons que désapprouver. C'est cette sorte de péché que le prophète Malachie dénonce en Malachie 1, verset 8. Il est bien sûr certain que l'appréciation de certaines formes de beauté artistique s'acquiert et n'est pas innée. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont plus attirés au début, par exemple, par les petits chœurs de l'école du dimanche que par la musique de Handel. Et on doit ajouter que certains goûts sont plus difficiles à acquérir que d'autres. L'art ecclésiastique, c'est quoi qu'ils vont en discuter. Quoi qu'ils doivent maintenir un bon niveau artistique et religieux, doit essayer d'être populaire. Un art excellent, que seulement l'artiste et des experts peuvent apprécier, n'a pas de place dans les églises où c'est l'adoration communautaire qui est le but. Cet art est essentiellement une expression privée de dévotion à Dieu et doit être exclu des lieux de culte public pour la même raison que Paul exclut les langues non interprétées du culte. Sur la même base, des idées excentriques de la beauté devraient être exclues des églises. Et il y a une bonne mesure de vérité dans le proverbe selon laquelle la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Bon, il faut être une couleur, on ne discute pas. Mais bien que personne ne puisse dire dogmatiquement que l'idée du beau qu'a un autre, même si cet autre est un individu isolé, cette idée est fausse, mais que personne ne peut dire dogmatiquement cela, on peut dire qu'elle ne doit pas être imposée à la multitude qui, en toute probabilité, sera incapable de les partager. Et qui sera incapable de considérer ces formes d'expression comme honorant Dieu. En disant cela, l'auteur de cet article ne pense pas exclusivement ou même d'abord à l'art moderne. Car, bien que les artistes modernes semblent souvent travailler pour d'autres artistes et mépriser la foule, et bien qu'ils soient très souvent excentriques dans leur goût, ils vont souvent plus loin. Ils refusent de reconnaître la beauté comme le but de l'art. Les champions de l'art moderne comme Paul Tillich dans Le Courage d'être, William Barrett dans L'Homme irrationnel, regarde l'art traditionnel comme propagande et comme embellissement malhonnête, et non comme l'art moderne, comme un reflet du monde réel. Il serait suffisant pour répliquer à cela de dire que l'art moderne est aussi propagande que l'art traditionnel, à un degré égal, seulement que ce n'est pas un embellissement malhonnête, mais un enlaidissement malhonnête. Mais utiliser le mot malhonnête n'aide pas vraiment dans ce débat. Il n'est pas plus malhonnête pour l'artiste concentrer sur la beauté qu'il ne l'est pour le moraliste de se concentrer sur la vertu ou pour le médecin de se concentrer sur la santé. L'artiste ne nie pas l'existence du laid, bien qu'il ne s'en serve pas, sinon comme un repoussoir pour la beauté, qu'il s'agisse de sujet ou de technique, ou dans l'art modèle, dans l'art comique, ou le risible, autant que le beau à sa place. Et même si parfois il idéalise son sujet, il se contente de souligner sa beauté naturelle, ou de lui donner une beauté qu'il a vue ailleurs dans la nature. Le condamner pour cela, c'est accepter l'a priori arbitraire que l'art ne devrait être qu'une reproduction photographique du tout de la nature. Ce n'est pas le but de l'art, et si c'était le but, l'art moderne n'aurait pas non plus réussi à l'atteindre. Il est intéressant de savoir qu'un défenseur de l'art moderne, comme William Barrett, dans L'homme irrationnel, et un adversaire de l'art moderne, comme Percy Gardner, dans Les principes de l'art chrétien, s'accordent sur ce qui est sous-jacent dans cet assaut moderne contre la beauté. L'exigence aristotélicienne de l'ordre et de la beauté dans l'art est venue d'une culture pour laquelle l'univers, en dépit d'une apparence superficielle de désordre, était en réalité une structure ordonnée. Et le christianisme a accepté cette conviction en la soulignant. L'art moderne, cependant, est un développement post-chrétien qui procède d'une incrédulité dominante quant à l'existence d'un tout ordonné et par conséquent significatif, porteur de sens. C'est à cause de cette incrédulité quant au sens de l'existence que l'art moderne a tendu à abandonner tous les critères traditionnels, religieux, moral, rationnel, artistique, et imprégné par l'irreligion, l'immoralité, le sordide, le désespoir, l'irrationalité, le désordre, le laid, à divers degrés. C'est essentiellement une réaction contre la tradition, comme le mouvement romantique allemand, le mouvement du Sturmtrang, et sa vitalité principale, c'est la vitalité d'une réaction. La vigueur de l'art moderne, je dirais ça, c'est thèse très massive, qui est au fond la thèse de Rothbacher, mais résumée en deux paragraphes. Elle est puissante tant que ça dure, mais c'est des éphémères. L'art moderne, contre lequel cet art, l'art traditionnel contre lequel cet art moderne a réagi, était devenu simplement formel et décadent. Et l'art moderne a fait un bon travail nécessaire en nettoyant le terrain, en balayant tout cela. Mais même dans la sphère strictement artistique, il est allé trop loin. Il s'est rebellé non seulement contre la superficialité, mais contre l'intelligibilité et la beauté, et en cela, il s'est rebellé contre l'art lui-même. Ensuite, autre paragraphe principal, la valeur de l'art. Ceux qui ont dit au XIXe siècle l'art pour l'art, trouveraient que chercher la valeur de l'art, c'est une fausse question. Mais prendre cette attitude, c'est refuser de voir l'art dans le contexte de la vie entière. L'art n'est qu'une des activités de l'homme, et c'est le même être qui est artiste et autre chose. L'homme a toujours un sens du bien et du mal quand il crée ou qu'il examine une œuvre d'art. Et il a toujours le sens du beau quand il adore Dieu. On ne peut pas donc isoler l'art, c'est antinaturel et impossible. C'est aussi contraire à l'enseignement chrétien. Car tout ce qu'un chrétien fait, il doit le faire pour le Seigneur et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que quand quelqu'un crée ou examine une œuvre d'art, et pas seulement d'ailleurs une œuvre d'art ecclésiastique, il devrait être en train d'adorer Dieu. La première valeur de l'âme, de l'art et de toute autre activité humaine, c'est de promouvoir le culte de Dieu, et c'est le but exclusif de l'art ecclésiastique, de l'art comme culte. Il est donc important d'examiner si une forme d'art atteint ce but. La valeur de l'art ecclésiastique se trouve d'abord dans le fait, déjà mentionné, qui donne au culte sa forme extérieure qui lui est naturelle et nécessaire. D'autre part, on peut encore noter que la continuité dans la forme extérieure peut donner une expression à l'unité de l'Église dans le monde entier et de génération en génération. Et il ne s'agit pas seulement de forme extérieure, il s'agit d'une forme extérieure belle. Et il faut aussi examiner quelle est la valeur de la beauté dans le culte. La valeur de la beauté apparaît de trois manières. Premièrement, si le culte est sincère, le fait d'atteindre la beauté plaît à Dieu. Car c'est lui qui a fait la beauté, il nous apprend à nous en réjouir et il nous commande de lui offrir ce que nous avons de meilleur. Ainsi, si nous pensons au culte comme à une offrande faite à Dieu, la beauté aura une part significative dans ce culte. Que nous soyons capables de créer de la beauté nous-mêmes, ou que nous ne soyons capables que de l'apprécier et de faire usage de la beauté que d'autres auront créée, ce sera acceptable à Dieu si c'est notre meilleur. Ce sera donc un élément de valeur dans le culte. Si le culte doit être agréable à Dieu, il doit être aussi édifiant pour l'homme. La valeur de la beauté dans l'édification, c'est le deuxième aspect, c'est qu'il excite les émotions qui portent vers Dieu, de telle sorte que nous l'aimions non seulement avec la résolution de la volonté, mais aussi avec nos sentiments. La beauté est une révélation de Dieu, l'amour de la beauté est une part normale de l'amour de Dieu. La seconde raison, considérer la beauté comme de valeur dans le culte. La troisième raison est la suivante, si l'art ecclésiastique réussit à être populaire, eh bien sa beauté aura une certaine valeur d'évangélisation. De même, une vie sainte est une recommandation de l'Évangile, de même aussi un culte beau. Car la tendance de la beauté, c'est d'attirer les gens, alors que la tendance de la laideur, c'est de les repousser. Paragraphe suivant, les dangers de l'art. Il y a certains dangers qui sont impliqués inévitablement dans l'usage de formes extérieures. L'externalisme, remplacer l'intérieur par l'extérieur, sera toujours le résultat chez les gens qui ne sont pas spirituels. Qu'il apparaisse comme un formalisme mécanique, comme ceux qui vont à l'église par habitude, ou comme un ritualisme enthousiasme, comme chez ceux qui ne s'intéressent vraiment dans le culte qu'aux formes extérieures. Mais puisque les formes externes sont inévitables, on ne peut pas éliminer ce danger, on ne peut qu'avertir contre lui. Un autre danger, c'est ce qu'il appelle l'antipouvoirianisme. Pensez au mot antiquaire, il y a un mot qu'on pourrait tirer du mot antiquaire. Cela semble être une part de la nature humaine que le respect des vieilles églises, des vieilles habitudes, des vieilles liturgies, des vieilles traductions de la Bible. Mais le respect pour l'Antiquité, ce n'est pas le culte. Quand les prières sont dans un langage périmé, que les rites ont perdu leur sens, il faudrait les changer. On ne peut pas permettre au langage de l'adoration de devenir inintelligible avec le passage du temps. Il y a aussi le danger d'esthétisme. Ce danger aussi est inévitable, parce que l'utilisation de formes extérieures implique la recherche de la beauté. Mais le danger, c'est que la satisfaction esthétique absorbe toute l'attention de l'adorateur, de telle sorte qu'il vienne à l'église avec la même intention que celui qui va au concert. Et ce danger est particulièrement aigu si les formes extérieures ne sont pas vraiment appropriées au culte, et si on leur permet d'obscurcir ce qu'elles doivent normalement exprimer, comme c'est le cas lorsque la musique est telle qu'on ne comprend pas les paroles, ou quand le cérémonial est trop compliqué et perd son sens. Il y a aussi des dangers qui correspondent à certaines branches particulières de l'art. Le sacerdotalisme, le ritualisme si vous voulez, et la magie sont des dangers qui accompagnent particulièrement le cérémonial. L'idolâtrie, un danger qui accompagne particulièrement la sculpture et la peinture. La localisation de Dieu, un danger impliqué dans l'architecture. Il n'y a pas de raison pour pour laquelle le lieu où Dieu est présent ne devrait pas être embelli, mais il ne faudrait pas que que l'or couvre un édifice alors que les pauvres en sont à mourir de faim. Et de même, il ne faudrait pas qu'on soit tenté de s'attarder dans une belle église alors qu'on devrait être dans la rue en train d'évangéliser le monde. Voilà les dangers liés. Le danger que la liturgie implique, c'est d'une part le danger d'une trop grande rigidité d'un côté, ou au contraire, le danger de désordre et d'individualisme de l'autre, avec les dangers qu'il signale. Le dernier paragraphe, alors est historique, l'art et les églises protestantes, et je crois que je ne vais pas prolonger tellement, je vais vous dire simplement que, de manière générale, on a accusé la réforme d'avoir encouragé une attitude de mépris à l'égard de l'art et d'avoir abouti à une stérilisation de la production artistique. Mais ce que Beckwith, alors, lui, a répliqué, c'est que ce n'est pas vrai qu'en fait les catholiques romains n'ont pas fait mieux et que les églises protestantes ont produit quelques-uns des plus grands maîtres dans plusieurs branches de l'art ecclésiastique, Rembrandt parmi les peintres, Bach parmi les compositeurs, Cranmer, un archevêque parmi les liturgistes, et puis alors un homme que j'avoue ne pas connaître, Wren parmi les architectes. Et souligne que l'art sacré du côté catholique n'est pas en meilleur état aujourd'hui que du côté des protestants. Non, enfin, je pense que je me contenter de ce bref résumé pour ce dernier passage. J'ai d'ailleurs avec moi aussi des citations de Calvin qui sont assez intéressantes, son attitude à l'égard de l'art, non de l'attitude. Je crois que ce qui vous intéresse le plus, peut-être, c'est ce qui critère la place de l'art dans le culte. Aussi peut-être des dangers. Voilà donc la traduction résumée, plus ou moins adaptée, de ce texte.
Je trouve très intéressant, très intéressant la vérité d'un traduit intégralement en français de publier. J'encourage Ectus à aller dans cette ligne.
C'est vrai, c'est un résumé, il y a beaucoup de choses.
Mais alors maintenant, je ne sais pas si c'est un point particulier où vous voudriez débattre. Je pense qu'on pourrait souligner plus vigoureusement encore que lui que dans la Bible, il est surtout question d'art à propos de l'art sacré. C'est à propos du culte que l'art est surtout mentionné et qu'on le voit se déployer. À propos de Betsaleel pour la construction du tabernacle, d'une part, et puis alors de l'art littéraire et musical, l'art poétique et musical. Ces formes d'art sont privilégiées dans la Bible, toujours en vue du culte. Il en est question, pratiquement. Parfois, à propos du plaisir des rois et de l'art d'agrément musical, la danse, etc., tout en cause, mais le plus souvent, c'est quand même la forme du culte. Et si la musique, d'après l'article, est le seul art qui ne serait pas absolument indispensable, on pourrait concevoir un culte sans musique. Précisément dans la Bible, c'est la musique qui est soulignée le plus important. Donc, nous avons une approbation divine pour la place de la musique dans le culte.
Le tiraillement que nous éprouvons me semble venir naître avec, je ne sais pas à quel moment ils sont nés exactement, mais naître avec l'apparition d'une société laïque. C'est là que on peut dire que l'art prend son autonomie et n'est plus dans la sphère du religieux, comme il l'a été jusqu'à une époque relativement récente. C'est à partir de ce moment-là que les questions se posent, mais il semble aussi bien pour les, disons, pour les païens, même de les contemporains du tabernacle dans le désert, l'art a une fonction religieuse tout à fait naturelle et admise par tous. Donc cette révolte de l'homme qui se manifeste dans l'art moderne est quelque chose assez récent. Et il y a dedans.
Alors quelqu'un avait proposé que j'apporte.
Tu m'as semblé reconnaître votre voix.
Oui,
que j'apporte une, un travail et puis que je dise quelle lecture j'en fais. Moi, ce que je. Quelle idée, quelle visée j'avais. Et voir dans quelle mesure ça coïncide avec ce que chacun y trouve. Et alors, je ne sais plus exactement ce qui a été répondu à ce moment-là parce que ça se comprend mal. Mais je veux dire que pour ce qui concerne l'intelligibilité et l'intention, il y a dans ce que je fais généralement une intention et des choses qui sont pour moi intelligibles. Mais, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas trop donner moi des explications d'abord, pour faire entendre les autres d'abord, c'est que, du même coup, lorsque j'ai dit, c'est ça que j'ai voulu y mettre, les gens généralement s'accordent à voir cela, les influences. Donc je préfère justement, pour mon compte personnel, recherchant une vérité, une profondeur plus grande dans ce que je fais, demander d'abord aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils éprouvent. Et après ça, je leur dis. J'ajouterai ceci, c'est que quand même quand on a dit ce que l'on croit clair et qu'on a annoncé ses intentions, il passe dans l'œuvre réalisée une quantité de choses sur lesquelles très difficile de prononcer, qui ne deviennent peut-être clairs qu'après coup, qu'en partie, il reste toujours une part qui nous échappe. Et c'est peut-être pour ça que finalement l'œuvre d'art est gênante et dérange. Si elle était parfaitement claire, si elle était parfaitement contrôlable, y compris par celui qui l'a fait, alors elle. Ce serait comme une affiche publicitaire. Quand les publicistes font une affiche et qu'ils mettent en jeu tel élément érotique ou tel élément passionnel ou tel élément dramatique, ils le font en faisant jouer des ressorts que la psychologie a reconnus. Et c'est une espèce de mécanique qui fonctionne avec une précision assez grande, appuyée sur les études psychologiques et statistiques et autres. Quand le peintre travaille, il y a des éléments psychologiques qui interviennent chez lui, chez ceux qui regardent. Peut-être joue-t-il à certains moments sur certains éléments, consciemment, volontairement, mais il y a aussi des éléments qui lui échappent. Et alors, quand nous nous approchons de lui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très intéressant, ce que cet écrivain anglais écrit, quand nous nous approchons de Dieu, et c'est pour ça que l'art religieux est extrêmement difficile, les exigences sont tellement grandes que ou bien l'artiste recule devant l'obstacle, ou bien s'il a travaillé, il esquive le questionnement des autres, ou bien alors on se défie. Lui, l'artiste et les autres se défient de l'œuvre d'art dans le culte, associé à la foi et l'adoration, parce qu'ils craignent de ne pouvoir contrôler tout ce qui est incontrôlable ou difficilement contrôlable. Et alors, on s'abstient. Mais j'aimerais bien avoir la pensée des autres sur. Sur ces questions.
Je voudrais savoir si le critère de communicabilité, dont il a été question, est plus important dans le cas de l'art qui touche au culte que dans le cas de l'art plus général. Par exemple, c'est assez clair, je pense.
Oui, je crois que c'est un point qu'on pourrait très bien débattre parce que c'est la thèse, le mec, oui, il n'y a pas de doute.
Très honnêtement. C'est bien,
tu vas trop, mais je t'explique un peu plus.
Parce que c'est quand même toujours assez énervant, même les tableaux en particulier. Quand tu te mets devant et puis tu te demandes ce que ça veut dire. Enfin, on se sent toujours un peu bête finalement devant un tableau. Alors si lui, en plus, il ne dit pas ce qu'il a voulu dire, il faut que c'est exactement l'inverse, alors
non,
c'est
vrai.
Je ne crois pas en lui à soulever la question, il me semble, la dernière fois, en indiquant que dans la manière dont nous ressentons les formes, il y a des constantes. C'est-à-dire qu'on ne peut échapper aux incitations de la forme. Elle nous incite à une lecture dans tel et tel sens. Alors, si le peintre a bien fait son travail, comme un artisan, avec application, modestie et en y mettant tout son savoir et tout son pouvoir, eh bien, les mots passent en tout cas au second plan, à l'arrière-plan, peut-être, mais je le mets entre, vraiment, avec un point d'interrogation, peut-être peut-on se passer même complètement de mots, de titres, par exemple, pour un tableau. Je dirais tellement, il est évident. Alors, je ne crois pas que c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences, un faisceau de lecture, mais je ne sais pas, sauf pour des œuvres de caractère purement décoratif, de type abstrait, où on peut dire les choses dans des sens très différents, très contraires. Mais même pour des choses figuratives évidemment, il y a quand même des possibilités, Henri l'a indiqué la dernière fois, l'un il verra par exemple une dénonciation du mal et l'autre il verra une complaisance pour le mal.
Il y a quand même quelque chose, à mon avis, qui m'a beaucoup frappé dans ce qui a été dit, c'est que l'art, d'habitude, doit avoir comme objectif, et seul objectif, l'adoration. Ça, c'est assez important, parce que ça m'a beaucoup frappé. Que l'objectif de l'art, d'habitude, doit conduire à l'adoration. Alors, est-ce que si dans l'œuvre, chacun y voit ce qu'il veut y voir, et ça ne conduit pas à l'adoration, est-ce que l'œuvre atteint son but?
Moi, il me semble que vraiment tracer fermement la ligne, comme le fait Beckwith, entre la production de l'artiste chrétien, en général, et puis ce qui sera intégré au culte et qui doit là garder les places secondaires et se soumettre à des servitudes particulières. Il me semble qu'une œuvre de dénonciation du mal, surtout si elle est de caractère plastique et donc n'a pas l'intelligibilité d'un discours, comme disons dans l'art rhétorique par exemple, une œuvre de dénonciation peut très bien se concevoir, mais ne s'intégrerait que très difficilement dans le culte.
Dans certaines prédications peut-être.
Alors justement, l'art rhétorique a quand même un privilège d'intelligibilité puisqu'il utilise les mots qui sont le véhicule premier, principal, ils sont faits pour ça, de la communication.
Même d'autres formes d'art pourraient aider à ce moment-là, c'est à ça que je pensais. Oui. Que ce soit peinture ou autre chose, je ne sais pas, pourrait aider.
Ça suppose aussi l'éducation de celui qui regarde. Parce qu'au niveau des mots, on apprend quand on est petit à comprendre, à lire et à comprendre. Je parle de l'art en général, là. Au niveau de l'art, la majorité des personnes n'ont reçu aucune éducation. Donc, il y a forcément incommunicabilité.
Ça, c'est un problème.
Mais au niveau du culte, je pense que là, ce qui peut nous rendre optimistes, et ce qui doit nous rendre optimistes, l'Esprit Saint nous remplit d'une compréhension à tous les niveaux, je pense. Et il nous remplit de la compréhension, enfin, Dieu veut nous faire comprendre, nous fait comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Et on peut peut-être apprécier et participer à toutes les formes d'art sous l'effet de l'esprit.
C'est une aide certaine, mais hélas, parfois les barrières humaines, Dieu ne les renverse pas. Mais dans cette œuvre-là, il peut y avoir, je pense, quand même des distractions malheureuses.
Je sais pas, j'ai déjà assisté à un culte où il y avait, disons, une musique, disons qu'on va appeler la musique pop. Hein. Ceux qui produisaient cette musique, évidemment, étaient loués le Seigneur, c'était des chrétiens. Et moi, devant une musique pop, je suis mal à l'aise. En général, je ne la reçois pas du tout. Alors, je ne sais pas. Oui, une musique qui m'énerve. Alors, je ne peux pas louer le Seigneur en étant énervé, finalement. Donc, je ne peux pas recevoir cette musique, ce genre de fantasme.
Tu soulèves un problème très important. C'est celui de la. Disons, des signes, la possibilité d'utiliser les signes de l'art de notre temps pour honorer Dieu. Est-ce qu'il faut inventer des signes nouveaux? Peut-on échapper en quelque sorte à l'écriture de notre temps? Parce que nous sommes chrétiens et que nous parlons d'adoration, est-ce qu'on peut y échapper ou finalement comment ça se fait sur le plan, dans le plan de façon très pratique, très concrète, quand tu demandes ton chevalet ou quand tu vas jouer une musique, la question se pose. Tu es en train de travailler sur une crucifixion. Alors on parle d'horreur du mal, de dénonciation, et on dit qu'une œuvre de dénonciation ne peut pas accompagner le culte. Pourtant, la crucifixion de notre Seigneur Jésus et tout ce qui s'y rattache, et quand on lit le récit dans les évangiles, les détails sont nombreux et révèlent bien les turpitudes de l'homme, nous y sommes tous et nous y reconnaissons tous, la crucifixion est au centre de notre culte. Alors, il y a le problème de la sobriété qui est soulevé par l'auteur là tout à l'heure et que je trouve très intéressant. On pourrait presque aller jusqu'à l'abstraction, jusqu'au signe géométrique, comme la croix qui est derrière la chaire, au tabernacle, avec le champ sacrifié. Bon, c'est la limite extrême. Après ça, le signe ne se reconnaît plus. Là, il se reconnaît, c'est encore une croix. C'est tout un décor qui remplirait le serpent qui est derrière le.
D'ailleurs, n'est pas perçu sans une tradition, sans une connaissance historique de tout ce que le symbolisme de la croix a impliqué pendant le 19e siècle.
C'est ça.
C'est intéressant à remarquer, c'est pas un symbole qui nous arrive simplement de l'écriture, comme ça, que nous aurions inventé. Il y a des résonances très très nombreuses.
C'est-à-dire que nous y mettons tous le Seigneur Jésus, et peut-être plus exactement, nous y mettons tous, nous y projetons tous les crucifixions que nous connaissons.
C'est certain. Là, je me rappelle qu'au moment de la reconstruction de l'Église, il y a eu un membre de l'Église qui est maintenant décédé et qui refusait absolument l'idée que l'on mette une croix derrière la chaire. Qui avait dit, il n'a pas fait, heureusement, on dit parfois des choses comme ça, qu'il ne remettrait plus les pieds au tabernacle s'il y avait une croix. La réaction viscérale d'anticatholicisme. C'est pour ça que je dis, nous réagissons avec des résonances qui viennent de l'histoire aussi. Et je crois pouvoir dire que elle a été faite de façon particulièrement discrète. Je me rappelle, mon père en parlant, elle est faite dans cette visée, elle ne ressort pas avec force, elle ne ressemble pas à ce qu'on trouve dans les églises catholiques, pour cette raison.
C'est comme pour une liturgie progressive, si certaines personnes ne supportent pas une liturgie progressive,
il y a un autre membre de l'Église, l'individualiste, je crois, vous connaissez, il m'a dit une fois que pour le culte, il donne à la radio à 8h30 dimanche matin, il ne prend jamais à 8h30, il prend un peu plus tard. Il réagit trop négativement à la liturgie de temps minimale du début, des 10 premières minutes, il vient prendre le sermon, mais pas cette liturgie. Ça m'a beaucoup frappé, parce que moi je ne réagis pas comme ça. En fait, il m'est arrivé de prêcher chez des réformés en robe et en suivant la liturgie réformée, ça ne me gêne pas. Mais oui, il y a des gens qui réagissent, des frères qui ont été formés par leur passé, de telle sorte qu'ils réagissent.
Mais est-ce que cette exigence de sobriété ne finit pas par s'opposer à celle d'intelligibilité de communication parce qu'en fait, je pose la question, est-ce que le fait qu'il y ait une figuration ne nous occupe pas et ne nous empêche pas finalement d'être dans un esprit d'adoration? est-ce que finalement l'art le plus qui conviendrait le mieux à l'adoration ne serait pas un art ou complètement abstrait et qui serait rendu intelligible par des textes bibliques, par exemple les maximes des pères d'église, si tu veux. Je pense pas que Descartes puisse se présenter tout à l'heure. Ou bien, alors, de signes, comme la croix et des choses comme ça, qui sont proches, disons, qui sont extrêmement simplifiés, est-ce que ça ne convient pas, finalement, à l'adoration qu'une représentation, même sobre.
C'est là que ce contenu de l'Ancien Testament est quand même très intéressant. Dans le culte, tout ce qui était des arts physiques, d'une extrême sobriété et au bord de l'abstraction. Pas de figuration, comme on dit. Il y a des grenades, il y a des formes.
Oui, il y avait des dauphins et des chérubins.
Oui, il y en a.
Oui, les chérubins, c'est pas de la figuration. Enfin, les chérubins sont des formes.
Mais c'était chargé comme la
mienne.
Pas tellement de sobriété, moi.
Je ne sais pas si c'est ça, ce sont des formes imaginaires, ce sont des formes imaginaires, ce sont des anges à tête de bœuf, quelque chose comme ça. Des créatures assez diverses qu'on trouve dans tout le Moyen-Orient ancien, portant le nom de chérubin.
Mais ce n'est pas, alors qu'est-ce que
tu appelles
la sobriété? Parce que pour moi, ce n'est pas sobre,
mais selon notre goût, ce n'est
pas. Mais là, je veux souligner surtout le caractère d'abstraction. Ce n'est pas vraiment une figuration, ce n'est pas un animal qu'on rencontre nulle part, représenté tel qu'on le voit. C'est une forme qui invite à la compréhension, qui invite à une compréhension symbolique. Et alors que les animaux quadripartis.
Mais il y a plusieurs choses que ce qu'on a dit me semble intéressant. Il y a plusieurs choses. D'une part, la question de sobriété, pas pour prendre une sobriété, et puis décor.
Oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire, disons que.
Mais le décor,
c'est. Glissement vers l'abstraction. Ou glissement vers le décor. Le tabernacle était peut-être hyper décoré. Il était peut-être grouillant de décor de la danse, mais un décor, comme sur les mosquées dans les pays arabes, c'est pas, il y a un décor qui est extrêmement chargé, extrêmement fourni, mais qui. C'est abstrait, ça ne dit rien. Enfin, il n'est pas. C'est comme un tissu, on ne s'arrête pas à toutes les petites fleurs de ton tissu, ni aux carreaux de.
Oh ben ça dépend qui, moi je m'y arrête.
Oui, tu t'y arrêtes, mais ça ne. Mais ça ne provoque pas une méditation comme une forme reconnue ou reconnaissable. Dans le symbolisme, il me semble que l'art public est très symbolique.
Oui,
mais c'est essentiellement un art symbolique.
Et d'ailleurs, disons ça, on pourrait dire que c'est l'art liturgique, ce que le Seigneur nous a laissé pour nous rappeler sa croix. C'est même pas un signe de croix, c'est le pain et le vin hautement symbolique. C'est aussi une forme artistique que la scène. Et c'est une forme riche d'une multitude de résonances symboliques extrêmement simples.
Il y a aussi une autre question que j'ai lu en train qui m'a beaucoup frappé. L'auteur dit que le lait repousse l'eau à tirer. Alors, dans notre présentation du culte, dans notre participation au culte, est-ce que nous devrions être préoccupés de cela, du fait que le lait repousse?
Moi, je dirais, je me rappelle un homme qui, je crois vraiment, s'est converti, mais qui n'a pas réussi à s'intégrer à une église, on y voit, à l'île de bien. En gros, il ne supporte pas nos cantiques. Il n'aime pas. Non, il n'aime pas les chanter ici. Il a fait quelques efforts, mais. J'ai l'impression que dans son cas, ça a eu un effet de repoussoir assez marqué. Ce qui n'est certainement pas la seule chose. Mais j'y pense après.
Oui, les cantiques, l'architecture, enfin moi ça me frappe quand je vois ces affiches, je les trouve affreuses. Je ne sais pas si, vu par un non-chrétien, ce qu'elle est faite, cette différence. Celle-là, je la trouve affreuse, celle-là, elle est belle. Bah, je trouve que c'est important dans une église, et même dans un lieu d'évangélisation. Maintenant, bien sûr,
ça peut peut-être servir à convertir quelqu'un, effectivement. Donc c'est là qu'il y a problème, d'un point de vue esthétique. Moi je suis toujours frappée quand je rentre dans une salle d'études, je suis frappée par un tas de choses. Et je pense que d'autres gens le sont aussi. Enfin, moi je viens pas pour la salle, mais je pense que ça impressionne quand même les gens. Des chrétiens et des non-chrétiens. Les chrétiens ont aussi besoin d'être portés vers Dieu, d'être dirigés vers Dieu, etc.
Enfin, la salle, en ce qui concerne la salle, par exemple, moi, elle m'aurait plutôt attirée, étant bien convertie que repoussée. Enfin, il y en a que ça repousse. Enfin,
la salle du
oui, c'est taverne, oui. Moi, il me fallait un lieu comme ça, oui. J'aurais jamais pu. Oui.
Je crois bien que
c'est
l'importance,
oui. Disons, spirituellement.
Et elle attire certaines. La réputation de froideur qu'un tabernacle, assez généralement, est pour une part causée par la froideur de l'abord architectural.
Froideur, et puis c'est aussi une question d'époque, je crois que c'est un peu une architecture un peu ancienne, enfin, on parle de choses très concrètes. Alors dans d'autres lieux, on trouve des couleurs, des couleurs très spéciales, un peu mièvre, souvent aussi dans certaines salles de
cultes. Je voudrais revenir, puisque vous soulevez cette question de la beauté d'un leader qui revient toujours sur le tapis, et qui est préoccupante, et qui préoccupe, qui me préoccupe moi sans cesse. Mon rêve est ce que je pense qu'un artiste digne de ce nom devrait développer un artiste chrétien, c'est un art que je l'appelle un art symphonique, c'est-à-dire qui inclut, qui s'exprime sur le registre le plus large, entre l'extrême beauté et l'extrême laideur, si vous voulez, c'est-à-dire qui est capable de maîtriser l'ensemble des formes, d'exprimer les choses à travers elles dans une harmonie. Bon. Dans ce que disait Beckenborn, que l'art consiste au fond à prendre la. Contenir le mal dans le filet de la beauté, je me demande si, et on échappe à cette exigence-là quand on fait un art qui est associé au culte. C'est-à-dire qu'il peut y rester des éléments de laideur qui ont une valeur de repoussoir. Si vous voulez, il n'est pas possible, même dans un art qui va servir au culte, d'éliminer cette espèce de tension qui existe à l'intérieur des formes et qui fait que c'est comme ça. Je suis en train de travailler sur une crucifixion et une résurrection, entre autres. Eh bien, en tout cas, la crucifixion, c'est un ensemble qui est très douloureux, bien sûr. Mais entre le Christ et les taureaux de Bassan qui sont en bas, j'ai introduit. Pourtant, la crucifixion, c'est déjà, si j'allais, douloureux et pénible. J'ai introduit, par contraste, un élément particulièrement déplaisant, si vous voulez, vers le bas. Dans la crucifixion, parce qu'il faut bien que je commence au milieu du registre, si vous voulez, si je veux pouvoir exprimer les graves et puis les aigus. Bon, sans des images. Pour la résurrection, le Christ est un Christ en gloire qui ressuscite, mais en bas, le bloc formé par la garde du tombeau est quelque chose dans lequel j'ai exprimé volontairement la laideur. J'ai utilisé des moyens qui rendent ce groupe de soldats autour du tombeau déplaisant et désagréable. Il apparaît comme ça, donc c'est volontairement que j'introduis des éléments de laideur qui n'occupent pas le point central du tableau, mais qui rend la résurrection du Christ d'autant plus glorieuse, d'autant plus entraînante. Mais si j'enlève cet élément-là, je coupe tous les noms.
Mais tu as noté que Beckwith parle d'utiliser la laideur comme repoussoir pour la beauté. C'est une de ses phrases, j'ai noté ça au passage. Et je crois que ton usage un usage tout à fait maîtrisé, enchaîné dans les liens de la beauté, et qui est au service d'une beauté qui veut présenter la beauté de la victoire de Jésus, de son don de lui-même. Il ne semble pas que tu tombes sous le coup de cette complaisance dans le lait qui l'accuse. Je vois que les personnes sont sorties. moi, je voudrais suggérer que la fois prochaine, nous mettions en œuvre la suggestion de M. Manga, c'est-à-dire que nous demandions à Jacques d'apporter une œuvre. Choisira et que prolongions dans notre conversation d'aujourd'hui.
Pas une admiration. Il est aussi que l'adoration, c'est l'adoration vers Dieu, mais aussi tout le monde. Donc là, ici, si on veut qu'elle soit portée vers Dieu, puisse être coupée.
Oui, les servitudes de l'art dans le culte qui doit être communautaire.
On n'en est pas tous au même niveau.
La preuve, c'est le chant. Jean-Pierre dit qu'il ne peut pas entendre de musique pop et adorer avec cette musique pop. Et peut-être que c'est le cher ami de Rony aurait chanté avec ceux qui.
Non.
Enfin, il y en a d'autres. Est-ce qu'il n'aimait pas les cantiques ou n'aimait-il pas la façon dont étaient chantés les cantiques?
Non, c'était les cantiques, vraiment. Mais je crois qu'il y a un passé catholique chez lui qui.
Il avait
la tenue qu'il exigeait. Sans être musicien lui-même, il avait sa sensibilité.
Il avait peut-être l'habitude de chorale.
Oui. C'est-à-dire au niveau musical ou les paroles?
On entend les paroles, au moins on entend. Alors, vous êtes d'accord pour la fois prochaine?
Oui.
Bon, alors, nous devons clore pour aujourd'hui.